Bonjour, Monseigneur Nicolas.
Bonjour Laurence.
Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui vous est cher, c'est notamment la Lectio Divina. Qu'est-ce que la Lectio Divina? Vous allez vraiment nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, pourquoi c'est important aussi pour alimenter notre foi. Et donc, c'est une expression latine qui veut dire lecture sainte. Est-ce que c'est ça à peu près?
Oui, en fait, la Lectio, c'est la lecture, la méditation de l'écriture sainte qui a été pratiquée évidemment très vite dans l'Église, qui a été pratiquée aussi dans les communautés monastiques. La Lectio Divina, disons que ça n'est pas une technique, on n'est pas dans la recette non plus, mais c'est une manière de nous apprendre à accueillir la parole de Dieu, à la méditer et puis à la faire passer aussi dans notre vie. La Lectio Divina, elle nous apprend cela.
Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de nous parler justement aujourd'hui de la Lectio Divina sur un format un petit peu différent pour Radio Ecclesia qu'on tente aujourd'hui, consacré sur plusieurs séances sur la Lectio Divina? Pourquoi vous avez choisi, vous, de commencer par ce sujet?
Parce que dans la vie chrétienne, tout commence justement par l'écoute de la parole de Dieu. Nous sommes des auditeurs de la parole de Dieu. En fait, Dieu se révèle à nous. On peut croire en Dieu par la raison, évidemment. Par exemple, en voyant la beauté de la création, je peux remonter jusqu'à Dieu. Mais Dieu va plus loin, il se révèle, et il se révèle comme Dieu Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Et ça, ma raison ne peut pas l'imaginer, ne peut pas le concevoir. Et donc Dieu se révèle, que la deuxième personne de la Trinité, le Fils, se fasse chair, et puis qu'il donne sa vie pour nous dans le mystère de la croix. Ça, ma raison, vous voyez, ne peut pas l'imaginer non plus. Voilà pourquoi Dieu a besoin de se révéler. Il a besoin de révéler qui il est en profondeur. Dieu est amour. Et ça, c'est vraiment une grande nouveauté. Donc nous avons besoin de la révélation, de nous mettre à l'écoute de cette parole où Dieu se révèle. Mais il ne fait pas que se révéler de manière générale, il se révèle aussi à moi, dans ma propre vie. Et il entre en dialogue avec moi. Il entre en dialogue avec nous, avec l'humanité. La révélation, c'est précisément Dieu qui veut dialoguer avec nous. Et donc, nous sommes d'abord des auditeurs de la parole. Rappelez-vous le schéma Israël, c'est « écoute Israël », ça commence comme cela. Ça veut dire qu'un chrétien ne commence pas par prendre la parole, mais il commence par écouter la parole. Et cette parole le nourrit, cette parole le fait grandir, et ensuite, elle l'invite à agir en chrétien. Voilà. Et donc, ensuite, le chrétien peut prendre la parole parce qu'il a écouté la parole et que sa parole, elle se fait écho aussi de la parole divine. Et la Lectio Divina, elle nous aide à entrer dans ce mouvement.
Alors, la Lectio Divina, hein, c'est aussi une lecture croyante, priant de la parole de Dieu, hein, de la Bible. Justement, c'est à travers sa parole que Dieu nous parle, parce que parfois on peut se dire, Dieu ne me parle pas, j'ai beau prier, j'ai beau méditer, est-ce que Dieu me parle?
Oui. Il y a un très beau passage dans l'Écriture, au chapitre 11 de Saint-Luc. Jésus est en train de parler et une femme élève la voix au milieu de la foule et lui dit « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les saints t'ont nourri ». Et Jésus lui déclare « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Alors la Lectio Divina, c'est justement cela. Et Jésus dit « En fait, Marie est bien heureuse ». Pas d'abord parce qu'elle a été la mère du Sauveur, mais parce qu'elle s'est mise à l'écoute de la parole de Dieu. Elle a laissé la parole entrer en elle, et elle s'est rendue disponible à la parole de Dieu. Ce qui fait la béatitude de Marie, c'est d'abord cela. Évidemment, elle est glorifiée parce qu'elle était la mère de Jésus, et la mère de Dieu, comme nous le disons. Mais avant d'être mère de Dieu, elle a dit oui. Elle a dit oui, et elle s'est mise à l'écoute de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous entendons la parole de Dieu avec Marie, en compagnie de Marie. Et Marie nous aide aussi à nous rendre disponibles à la parole.
Vous parlez d'une lecture croyante, priante de la parole de Dieu. Comment c'est possible d'avoir une lecture priante? Parce que on va lire la Bible. Est-ce qu'il y a différentes étapes dans cette Lectio Divina, justement? On le verra peut-être après, de méditation, de la contemplation. Oui. Pourquoi serait-elle priante, justement, cette lecture de la parole de Dieu?
Il faut dire que la parole de Dieu, lorsque nous l'entendons à la messe, parfois elle nous semble d'abord lue rapidement, parce que c'est une lecture qui dure quelques instants. Et donc on entend un texte, mais le texte ne nous rejoint pas forcément immédiatement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un commentaire du prêtre, l'homélie est un commentaire, Et parfois, lorsqu'on regarde même un texte biblique, bon, il y a des mots qui nous échappent, il y a des expressions qui nous sont obscures, on ne voit pas très bien ce que l'auteur veut dire. Donc, on peut avoir un rapport à la parole de Dieu qui est compliqué, parce que cette parole ne nous parle pas immédiatement. Mmh. Et donc, la question va être de savoir dans quelle disposition je me mets lorsque j'aborde la parole de Dieu. Au fond, beaucoup de gens, moi, me disent « c'est obscur, c'est difficile, en plus c'est une culture qui n'est pas la nôtre, donc la parole de Dieu ne me dit rien ». Et il peut y avoir une sorte de lassitude. Tout le monde entend « ah ben oui, il faut lire la parole de Dieu, il faut prier la parole de Dieu », mais si on ne sait pas comment faire, si on n'est pas accompagné, on se retrouve là, et ça peut être très desséchant. Donc, la Lectio Divina, elle est une aide justement pour entrer dans ce dialogue avec le Seigneur, sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Et voilà pourquoi je dis qu'elle est d'abord croyante, parce qu'on fait un acte de foi au départ. On fait cet acte de foi que c'est Dieu qui me parle, que cette parole elle est inspirée, qu'elle est inspirée par l'Esprit-Saint, que le Seigneur s'adresse à moi dans ma vie concrète, qu'il se révèle à moi, qu'il me conduit, qu'il illumine ma route pour aujourd'hui, qu'il me permet de discerner aussi à partir du Christ Seigneur.
On dit aussi que la parole de Dieu est vivante. Parfois, on peut avoir, je pense même au cours de la messe, entendu un évangile, une parabole, et puis des années après, on la réentend et elle fait sens pour nous, elle fait écho à quelque chose de notre vie. Est-ce qu'on peut dire que justement, cette parole de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est Dieu nous parle à travers vraiment sa parole.
Ben oui, parce que la parole, en fait, c'est son verbe. Hein, et le verbe, c'est le Fils unique. Donc, quand il nous parle, il se révèle en Jésus-Christ. Et c'est une parole vivante qui porte du fruit. Rappelez-vous le texte de la Genèse, à chaque fois que Dieu dit, eh bien, il crée. Et donc, cette parole entre en nous. Alors, on peut ne rien en faire, mais on peut l'accueillir comme une parole pour moi aujourd'hui. Tout à l'heure, vous m'avez posé une question à laquelle je n'ai pas répondu immédiatement, en me disant, au fond, est-ce que Dieu nous parle d'une autre manière que par sa parole? Évidemment, je crois qu'il nous parle dans les événements de notre existence, il nous parle par les grands désirs. J'aime bien parler des grands désirs aux jeunes, en disant, mais qu'est-ce que vous avez comme grand désir? Parce que Dieu s'adresse à nous. Mmh. Et puis, il nous parle à travers des rencontres, il nous parle à travers mille événements du quotidien, mais à travers aussi la paix, la joie, ou bien la tristesse, l'agitation intérieure. Mais pour comprendre ce vocabulaire de Dieu, si je puis dire, il faut justement être habitué à fréquenter sa parole, à comprendre comment ce que justement il nous parle au quotidien. Et ça, c'est justement la méditation de la parole de Dieu qui nous rend sensibles à la façon dont Dieu peut nous parler dans le quotidien. Parce que dans son humanité, justement, Dieu nous rejoint dans notre humanité à nous. Et donc notre humanité, elle est aussi le langage de Dieu qui vient s'adresser à nous.
Comment concrètement on peut pratiquer cette Lectio Divina? Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il y a différentes étapes?
Oui.
Est-ce qu'il y a différentes étapes un petit peu voilà, vous avez dit déjà d'invoquer l'Esprit Saint. Est-ce qu'il y a une attitude de prière? Bon, il y a des personnes, des fois, ils ont besoin d'un discernement. Ils ouvrent la Bible, voilà, comme ça au hasard. Ça se passe comment, la Lectio Divina?
Oui, alors, tout à l'heure, vous insistiez avec raison en disant que c'était une lecture à la fois croyante parce qu'on pose un acte de foi et puis une attitude à la fois priante parce qu'on est dans la prière. Et donc on est dans le cœur à cœur avec Dieu. Il va donc falloir accepter de faire silence en nous, un silence intérieur pour accueillir cette parole et puis prier l'Esprit Saint pour qu'il nous guide. Il faut passer d'une démarche purement intellectuelle où on regarderait des mots, des phrases, des concepts à un dialogue avec le Seigneur. Même s'il faut évidemment se confronter à ce que dit le texte, mais on est d'abord dans un climat de prière. Et dans la foi, on va laisser le texte faire écho en nous. On va s'attacher à, non pas d'abord à ce qu'on ne comprend pas, non pas d'abord à ce qui est difficile, mais au contraire aux expressions qui nous parlent, à ce qui nous fait grandir, à ce qui vient nous toucher, à ce qui vient nous illuminer, à ce qui vient nous apporter de la paix, de la joie, de la consolation, à ce qui peut nous aider aujourd'hui dans notre vie concrète. Voilà, c'est un climat de prière et un climat de prière dans l'Esprit-Saint. Je laisse le Seigneur parler à mon cœur. Je ne m'inquiète pas, je ne commence pas par négocier avec le texte. Je racontais l'autre jour que quand j'étais jeune prêtre, On avait parfois des préparations de la messe du dimanche où on méditait l'évangile. Une fois qu'on avait lu le texte ou les textes du jour, la petite équipe qui était là, tout de suite se penchait sur ce qu'ils ne comprenaient pas, sur ce qui les agaçait, sur ce qui leur semblait obscur. Et je me retrouvais tous les 15 jours, puisque c'était tous les 15 jours, à devoir prendre la défense de la parole de Dieu. Parce que, disait-il, le vocabulaire ne convient pas maintenant, c'était une terminologie qui était usée, qui ne pouvait pas rejoindre les gens. Et donc il fallait à chaque fois que je défende le vocabulaire, les expressions, le découpage liturgique. Et c'était assez pénible parce qu'en fait on n'était pas dans un climat de prière, justement on était dans un climat très cérébral,
ouais, très intellectuel.
Intellectuel, et donc on ne pouvait pas accueillir la parole dans ces conditions. C'est ça aussi qui m'a fait me diriger vers la Lectio Divina en disant mais comment est-ce qu'on peut non pas se confronter au texte, s'affronter avec le texte, mais accueillir ce que la parole de Dieu a de nouveau pour moi aujourd'hui.
Donc concrètement, vous par exemple, quand vous pratiquez la Lectio Divina, vous accordez un temps. Alors ça c'est très jésuite, hein. On va se dire je vais prendre 10 minutes, je vais mettre un quart d'heure dans ma journée. C'est vrai qu'on court tous un petit peu après le temps, mais pour pouvoir pratiquer une Lectio Divina, on va dire efficace ou qui porte des fruits, il faut peut-être aussi avoir une sorte de discipline. Qu'est-ce que vous conseillez, vous ?
Mon premier conseil, c'est d'abord de demander à l'Esprit-Saint qu'il guide notre lectio, y compris sur le temps que je vais y passer par semaine ou par jour. Au fond, c'est vraiment l'Esprit-Saint qui est le maître intérieur de ma vie spirituelle. Il ne faut pas que je décide ça comme une décision dans mon coin, en disant « Ah, bon, allez, maintenant je vais m'y mettre ». Parfois, quand c'est trop volontariste comme ça, on ne tient pas la route pendant des années. Donc je crois qu'il faut d'abord commencer par voir si j'ai ce désir de me mettre à la Lectio Divina, que je présente ce désir à l'Esprit-Saint et que je discerne. C'est-à-dire, Esprit-Saint, voilà, j'ai ce désir, aide-moi à discerner le temps que je dois y passer. Est-ce que c'est 10 minutes par jour? Est-ce que c'est 15 minutes par jour? Est-ce que c'est 15 minutes par semaine? Est-ce que, par exemple, pour faire ça de manière réaliste, on peut se dire quels sont les temps dans la semaine qui pourraient être favorables à un silence, un moment de silence où je ne serais pas dérangé? Ouais. Si vous décidez, par exemple, de faire la Lectio Divina le soir,
avant d'aller se coucher,
quand vous êtes en pyjama, eh ben, au bout de 15 jours, vous direz « Tiens, je ne comprends pas, je m'endors pour la Lectio Divina. » Ben oui, parce qu'en fin de journée, souvent on s'endort. Et donc, ça n'est pas le moment le plus favorable pour pouvoir... vous savez que les moines, la dernière prière de la nuit, les complis, c'est toujours une prière très courte. Et ça, c'est très réaliste parce que à la fin de la journée, on est fatigué. On ne peut pas se lancer dans des grandes entreprises de prière. Donc, peut-être qu'on peut se dire, tiens, il y a une ou deux fois par semaine, je sais que j'ai du temps pour moi, je sais que ces 20 minutes, elles seront qu'à moi avec le Seigneur. Ben, on peut commencer comme ça. Il vaut mieux commencer petitement, si je puis dire, humblement, mais de manière réaliste, plutôt que de vouloir faire une lectio tous les jours, par exemple, parce que ensuite, si jamais on a du temps, si on y prend goût, là, on peut demander que l'Esprit-Saint nous inspire, nous montre quel est le rythme, quel est le bon rythme, et puis ensuite, le laisser mettre de ce temps de prière.
C'est ça. Sachant que, voilà, c'est important, hein, vous le disiez, c'est aussi une décision. Il faut se fixer un temps, et peut-être privilégier la régularité, même si c'est court, pour accorder ce temps de prière à cette Lectio Divina. Est-ce qu'il peut y avoir de l'aridité, de la sécheresse, de la difficulté? Comment on peut dépasser ça aussi? Parce que, est-ce qu'il faut commencer par l'Ancien Testament, le Nouveau Testament? Il y a des lectures qui sont plus faciles, entre guillemets, plus accessibles que d'autres également. Le Deutéronome, etc., c'est plus ardu.
Moi, je proposerais volontiers de commencer par faire la Lectio Divina sur l'évangile du dimanche suivant, ou bien sur les textes du dimanche suivant. Mais il ne faut pas trop de textes non plus dans une Lectio. Et donc, l'évangile ou la lecture, ou bien la première lecture et l'évangile, parce que vous savez que dans la liturgie, la première lecture a été choisie en fonction de l'évangile, pas les lettres de saint Paul, qui sont dans une lecture continue. Donc, dans la liturgie du dimanche, c'est l'évangile qui est premier. Ensuite, on a choisi la première lecture en fonction de l'évangile. Et le psaume est un psaume responsorial, c'est-à-dire qu'il répond à la première lecture. Donc on a toujours une unité assez forte entre l'évangile, la première lecture et le psaume. Ensuite, la deuxième lecture, c'est, disons, un autre rythme. Donc on peut peut-être prendre l'évangile. Et puis, si on fait deux fois par semaine, on peut aussi peut-être prendre la première lecture. Voilà, ça nous donne un rythme qui est le rythme liturgique, le rythme. Donc on ne va pas chercher très loin, si je puis dire. On prépare la messe du dimanche en méditant l'évangile qui va venir. Mmh. On peut aussi prendre l'évangile du jour, ou bien la lecture du jour, si on fait la lectio divina tous les jours, ou bien plusieurs fois par semaine. On peut aussi tout simplement commencer par l'évangile de Matthieu, et puis faire la lectio divina, paragraphe par paragraphe, si je puis dire, déjà des quatre évangiles, et puis ensuite de tout le Nouveau Testament. Déjà, là, on a de quoi faire. Vous demandiez si ça pouvait être sec. Bon, bah d'abord, il y a des textes, avouons-le, qui sont plus inspirants que d'autres. C'est vrai que la généalogie au début de l'évangile de Matthieu, elle est peut-être moins inspirante qu'un miracle de Jésus, ou bien que l'évangile de la Samaritaine. Peu importe, c'est pas grave, c'est une parole inspirée, et là, il faut faire cet acte de foi que le Seigneur me parle aussi à travers ce texte, même si jamais j'en retiens pas des leçons incroyable pour ma vie quotidienne. Mais peu importe, je prends ce texte et puis j'avance avec. Mmh. Moi, il me semble que parfois, des gens se mettent à prier en disant « Bon, je vais faire un temps d'oraison. » Et ils se mettent là, chez eux, dans le silence, mais sans, j'allais dire, sans support. En tout cas, comme ça, il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas de prière intérieure. Simplement, ils se mettent là. Mais c'est là où la prière peut être très sèche. Et donc, moi, je propose d'entrer dans la prière, justement, en faisant la lectio. Mmh. Sachant qu'à la fin de la lectio, il y a ce temps de contemplation où, justement, on est dans le silence avec le Seigneur. On goûte la présence du Seigneur. Donc, je crois que la lectio, elle est une réponse, justement, à la sécheresse de la prière. Parce qu'on commence avec cette parole. Mmh.
Sachant que quand on peut faire oraison ou même adoration, on peut être aussi envahi par énormément de préoccupations ou de soucis qu'on se retrouve devant le Seigneur. Et d'avoir un certain nombre de pensées, est-ce que j'ai pensé à fermer la voiture, est-ce que j'ai fait ci, est-ce que j'ai fait ça. Donc la lectio finalement permet aussi avec la parole de Dieu de rentrer dans la parole, de méditer, de se raccrocher, on peut dire, à cette forme de prière.
Oui.
Et de chasser un peu ces pensées des fois qui nous viennent.
Vous avez tout à fait raison. Parce que, justement, il va falloir qu'on cesse nos paroles intérieures pour écouter la parole. Je pense un peu à Marthe et Marie. Mmh. Donc, on est là avec tous nos soucis et on les laisse pour se dire, Seigneur, en fait, je vais écouter ta parole. Ça, c'est la première conversion, je crois, de la prière qui peut nous coûter. Ensuite, s'il y a des distractions pendant la prière, je pense que c'est une chance, au sens où ça veut dire que c'est notre vie qui est là, qui s'invite dans notre prière, notre vie concrète. J'ai pas fermé la voiture, ou comme vous le disiez, ou d'autres choses. Eh bien, peu importe, prenons ces distractions comme matière de la prière. Par exemple, si vous pensez au dîner de ce soir, vous dites, tiens, j'ai invité des amis, je vais prier pour eux. Donc ce qui s'invite dans la prière, on va le retourner, si je puis dire, on va mettre le Christ au centre. Si vous avez eu une difficulté avec un voisin ou votre conjoint, par exemple, et puis que vous y repensez, vous priez pour lui. Vous dites, Seigneur, donne-moi les paroles pour apaiser, donne-moi de trouver un chemin pour me réconcilier. Et si vous pensez à vos vacances dans 3 semaines, en disant, où est-ce qu'on va aller, ou bien j'ai pas réservé le train. Ça, si vous n'avez pas réservé le train, vous le notez.
Voilà. Alors, effectivement, c'est ce que je voudrais partager aux auditeurs de Radio Ecclesia, c'est que régulièrement, quand je vais prier, je prends un petit cahier. Alors, un cahier où je peux noter des paroles ou de la Bible que je reçois, mais je note aussi tout ce que je dois faire. Parce que parfois, on se dit « Ah, il ne faut pas que j'oublie ci, il ne faut pas que j'oublie ça ». Donc, prendre 5 minutes pour, sur son cahier, penser à toutes ses préoccupations. Et donc, on les récupère après la prière.
C'est ça. C'est des petites techniques. Des petites techniques pour évacuer, disons. Mais je crois que c'est beau quand même de se dire tout ce qui vient dans la prière, on le pose devant le Seigneur, on l'évangélise et on ressort de la prière en ayant peut-être évangélisé justement des préoccupations, des soucis du quotidien. C'est comme ça que ça marche, c'est-à-dire que la vie vient dans la prière, mais la prière nous renvoie à la vie. Et peu à peu, le Seigneur habite notre vie concrète.
Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que parfois, il y a des personnes, j'ai entendu dire, des paroissiens qui me disent « Non mais je vais pas demander ça à Dieu parce que c'est des soucis matériels, c'est des soucis du quotidien, ça ne l'intéresse pas. » Dieu est au courant et ça ne l'intéresse pas. Vous, vous pensez qu'au contraire, c'est important de présenter toute chose à Dieu ?
Et Jésus, dans son humanité, est venu partager notre vie quotidienne. Il s'y intéresse. Il est venu prendre des repas, marcher avec nous. Il a eu faim, il a eu soif. Ça, c'est le mystère de l'incarnation. Mmh. Et donc, il est là, présent. Ça ne veut pas dire qu'on l'utilise pour nos petites affaires. Dieu n'est pas un Dieu à tout faire. Mais il est là, présent. Et puis, on vit les choses avec lui.
Merci, Monseigneur. Nous nous retrouvons dans quelques temps pour une deuxième séquence sur la Lectio Divina.